RMC.
C'est pas officiel, je crois. Donc c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non?
C'est vrai que je suis abattu, je suis très triste. Ça fait très mal, mais je vais pas m'arrêter.
Ouais, de jouer au football, je serais prêt à même aller au Pôle Nord.
Le Super Football Show.
J'ai essayé Nietzsche, j'ai essayé Kant, etc. Bon, j'ai essayé Socrate, etc. J'ai essayé. Bon, j'ai pas réussi.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et François Mollard de Jingle de l'After, ça fait partie aussi de la légende de cette émission. On était avec Pierre, supporter du LOSC, qui nous a appelé au 32-16, supporter de Lille, qui a fait match nul 2-2 face à Guingamp et qui menait 2-0 face à Guingamp. T'es toujours là, Pierre?
Ouais, toujours là. Et pour Marc Ingla, je suis désolé, hein, effectivement, il était parti. Il avait pris une semaine de vacances contre Amiens lors du match à huis clos, donc il y a deux semaines de ça.
D'accord.
Cette
donc,
semaine,
il était
bien présent. Ouais.
Parce que Gibault l'a vu au bord de la pelouse, et au loin, et voilà, et il nous a dit tout à l'heure.
Ouais, tout à fait, il était présent, ouais.
Voilà, d'accord. Voilà, c'était rectifié.
Ah, donc on a quelqu'un de professionnel là, à l'antenne, là, qui est au courant de tout. Hein. Ben, rien, ça a renseigné.
Oui, oui, bah voilà, donc.
Il s'est renseigné.
Oui, oui. On parlait du calendrier à venir pour Lille, Pierre. Est-ce que tu y crois quand même toujours ou pas? Ou alors, tout à l'heure, on parlait de l'aspect mental, c'est vrai, c'est ce que disaient François et Ali, tout à l'heure. Est-ce que tu dis que c'est plié pour toi, là? Ou alors, tu y crois encore quand même?
Au vu des symptômes qu'on présente, je pense que la Ligue 2 nous irait très bien, mais il reste cet espoir, parce qu'on est quand même 18e ce soir, grâce à la confrontation directe avec 3, même si on a le même nombre de, au goal average, qui est un goal average de moins 21 pour nous deux, mais on reste quand même 18e. Donc on est barragiste. Il me semble que Toulouse et 3 doivent jouer encore le Paris Saint-Germain, ce qui sera très compliqué pour eux. Ils doivent jouer aussi Marseille, donc on a le calendrier favorable par rapport à ces deux équipes-là. Sur un plan arithmétique, on peut y croire.
Par contre,
sur un plan sportif, c'est autre chose.
Oui, et ben c'est le deuxième point le plus sensible. Hein.
Pierre,
c'est pas
ouais.
Les maths. Hein.
Moi, j'ai pas peur que vous alliez en Ligue 2. Moi, j'ai juste peur que vous disparaissiez, parce que ça me dérangerait pas.
Bah, c'est le problème de la Ligue 2, ouais, Pierre. C'est que vu la situation,
si on regarde la S Nancy Lorraine.
C'est ce que j'ai peur. Moi, c'est surtout que vous descendez en Ligue 2. Je pense que Lille peut remonter. C'est pas un problème. Mais c'est surtout de dégrader administrativement. C'est surtout ça qui me fait peur. Ouais. Que vous descendez un des deux, c'est pas un problème.
C'est un problème par rapport à ce qui a été préparé comme budget pour le LOSC cette saison. Ouais. C'est un premier problème. Après, il y a le second que tu as cité, qui est l'épée de Damoclès de la rétrogradation administrative. Et moi, j'en verrai un troisième qui est lié aux deux premiers. C'est que la direction de ce club-là, qui a tout sauf prévu une relégation, je pense qu'elle peut disparaître. Hein.
Mmh.
Et si elle disparaît, qui vient prendre Lille? Il y aurait du monde. Non, mais il y aurait du monde. C'est pas un scénario à la Bastia. Mais on est au mi-avril. Championnat se termine dans un mois. Si Lille descend, que ce soit via les barrages ou directement ou administrativement, pour reprendre, oui, c'est très compliqué.
Le mot de la fin, Pierre.
Très compliqué.
Ça sera très compliqué, on va y croire quand même, parce que le LOSC faisait partie des grandes équipes de France, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça. J'aimerais retrouver l'équipe qui nous a fait vivre.
Mais tu peux pas, Pierre, pardon de te couper, mais tu peux pas t'accrocher. Enfin oui, tu t'accroches à ça quand tu es supporter.
Non, mais ce qui veut dire, c'est que
le
ça,
match, je comprends,
c'est
mais
un monument qui est en danger.
Le match de ce soir, je trouve que c'est le match
qui symbolise la saison
le plus dur par rapport à ce scénario de fin de championnat pour Lille. C'est un match qui te tue véritablement. Tu mènes 2-0, tu imagines, tu te dis bon allez, ce soir ça va enfin nous sourire parce qu'on a mis quelques ingrédients et puis mentalement les failles reviennent à la surface.
En fait, j'ai peur que après ce fameux ressort là, il y aura plus de ressort. C'est-à-dire que dans un match, il y aura plus de ressort.
Il y a un petit élément également, on en a pas parlé. Alors tu l'as très certainement lu d'ailleurs, Pierre. Il y a une interview aujourd'hui de Benzia dans l'équipe. Alors qu'il y a des mots qui sont très très forts finalement. Je voulais juste une citation de Benzia. Il dit « On ne va pas se mentir. Tout le monde n'est pas impliqué. Il y a sûrement des joueurs qui pensent un peu plus à leur futur ou à leur envie personnelle. C'est ce qui fait qu'on a du mal à avancer. Mais il faut créer un groupe le plus vite possible pour s'en sortir. » Quand il dit ça, enfin, il cible certaines personnes dans le vestiaire. Et il a double tranchant.
De toute façon, inconsciemment, même lui se met là-dedans dans le sens où ça ne va pas. Qu'est-ce que tu penses à quoi? Non, mais même s'ils vont en Ligue 2, même s'il y a une division d'honneur, je vais aider Lille. C'est fini ça, Nico. Le mec, il pense aussi à lui. Et quand cette équipe va mal, parce qu'arrive un moment, ils sont en train de penser pas que sportivement, ils ont l'épée administrative et sportivement, et pour des joueurs qui peuvent facilement rebondir avec des agents qu'ils ont eux, Ben, je peux te dire que dans la tête, la réflexion, elle est vite faite.
Attention à une chose aussi. Attention quand même à une chose.
Vas-y, pour finir.
C'est que les mecs, ok, ils veulent se barrer. Mais pour se barrer, il faut quand même montrer un petit peu chose. Alors, créer un groupe.
C'est pas vendeur d'être relayé.
Ça, non. Ça, on va pas me faire croire qu'on crée un groupe. Non. C'est fini. D'accord. C'est mort. Mais il faut quand même essayer de se dire, on a un peu intérêt à tirer quand même dans le même sens. Parce que pour retrouver un joli contrat par la suite, il faut quand même qu'on arrive à faire quelque chose de nos pieds. Et
Pierre,
du club.
Merci d'avoir été avec nous, Pierre. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci Pierre. Bonsoir Pierre. Juste une petite précision, c'est Mini Cooper qui a réagi sur l'hashtag RMCLF. Tout à l'heure on parlait des barrages, on parlait notamment de la CA. Vous savez que ça a changé à partir de cette saison. Je vous refais le tableau vite fait. Le 4ème de Ligue 2 a un premier match face au 5ème de Ligue 2, ok? Ensuite il y a un deuxième match, le match 2. Ça se joue en un match ces deux matchs-là. Le 3ème de Ligue 2 joue face au vainqueur de ce match entre le 4ème et le 5ème. Et après, ensuite, sur phase aller-retour, il y a le fameux barragiste, le play-off Ligue 2, donc le vainqueur de ces trois matchs-là, enfin de ces deux matchs-là, il joue face au 18ème de Ligue 1. Ok?
Faut bien préciser, réception.
Ça veut dire que le 3ème de Ligue 2 n'est pas barragiste en soi. Il va jouer face au vainqueur entre le 4ème et le 5ème.
Ça, c'est pour le calendrier. Merci de cette précision. Après, t'as quand même le sentiment, quand tu défends la Ligue 2, que imagine que tu aies un scénario possible où le 5ème de Ligue 2 joue le barrage aller-retour contre le 18ème de Ligue 1, c'est que t'as vraiment tout fait pour crever le 5ème de Ligue 2, pour qu'il ait plus de jus. Que tu facilites la tâche du 18ème de Ligue 1.
C'est pour ça, c'est le classement, le fameux classement. C'est pour ça que t'es 5ème, 4ème et 3ème.
Ouais, mais ce que veut dire François, c'est qu'il y en a qui jouent plus de matchs que d'autres, des allers-retours, enfin voilà, tu vois.
Ah oui, ça c'est sûr, mais faudra faire attention, parce que tu peux avoir vraiment une équipe qui est 5ème et qui d'un coup explose un petit peu tout le monde. On prend un exemple, admettons, tu vois l'effectif de Lorient. Si Lorient sont 5ème, ils ont les capacités à aller jusqu'au bout parce qu'ils ont l'effectif.
Ce samedi, messieurs, en Ligue 1 avait débuté par la victoire de Lyon face à Amiens, 3-0.
Ça t'intéressait pas,
absolument pas. Bon, allez, Mariano, Memphis et Traoré, voilà, les attaquants de l'OL ont marqué. À noter que Fekir a effectué son retour.
Ah, c'est une bonne chose.
Ouais, il a joué le dernier quart d'heure. Il est même impliqué sur le dernier but, le but de Traoré d'ailleurs, Nabil Fekir. Alors, juste quand même, Amiens qui était sur plutôt une bonne dynamique, c'est leur la grosse défaite de la saison depuis le mois d'août. Ils avaient perdu 3-0 non loin d'ailleurs de Lyon, c'était du côté de Saint-Étienne. C'est une jolie perf quand même de la part des Lyonnais, cette victoire 3-0.
Est-ce qu'on peut parler de perf?
Bah Lille, Amiens est chiant à jouer.
Ils ont été chiants à jouer.
Attention, même s'ils sont chiants, je veux dire, Amiens, ils ont fait le job là, Nico. Ils vont vouloir faire le job à domicile. C'est-à-dire que le prochain match à domicile, je sais pas contre qui reçoivent Amiens, mais c'est là où ils vont prendre ces fameux 3 points qui vont leur permettre de souffler par rapport aux autres. C'est pas un
Alain Lyon. Ça fait 5 victoires de suite pour Lyon, c'est pas mal.
Mais si tu regardes le match. Évidemment, le score est un peu trompeur. Oui. Évidemment, tu te dis, ils ont marché sur les Amiennois. Mais en fait, les Picards, ils étaient
Lyon,
pas mal organisés.
Ah ouais, mais Lyon fait un bon
je trouve
match.
Que c'est les individualités, plutôt à la fin du match, qui ont débloqué la rencontre. C'est plus les individualités.
Ouais, mais
ils mènent 1-0, c'est mérité. Mais je trouve que Amiens, ce qui leur a manqué, c'est un Kakuta en forme cet après-midi. Ouais. Voilà. Mais après, je trouve que ça s'est vraiment débloqué sur les individualités. 3-0, c'est sévère pour Amiens. Le 1-0 avec le premier but de Mariano, et voilà, t'étais dans la logique
pour les Picards, ça va être un petit peu leur finale de Champions League, je pense, vraiment pour respirer.
Tiens, tu parlais de Memphis.
Oui.
Alors, vous vous souvenez qu'il est resté sur 4 buts, une passe D, là, le dernier match, là, face à Metz. Memphis, sur les 4 derniers matchs, c'est 5 buts, 5 passes D.
C'est énorme.
Mais c'est énorme.
Moi je le dis, c'est énorme.
C'est ouf.
Il est en forme, mais il a une régularité.
Les gens vont dire, il y a Toulouse, il y a Metz, il y a machin.
Non,
il y a Marseille aussi.
Tu peux pas
régularité.
Dire ça. D'accord. Tu peux pas dire, c'est facile de marquer. Il faut les planter, les buts.
Et dans les gros matchs, il t'a sorti les deux buts plus importants, c'est-à-dire contre le PSG et contre Marseille. Et ce fameux but contre Marseille, si tu grattes cette troisième place à l'OM, exactement, je peux te dire que Depay, ça coûte cher sur le coup.
Et alors Fekir a donc joué le dernier quart d'heure de ce match. Il a donc été impliqué sur le dernier but de l'Olympique Lyonnais. Bruno Genesio s'est exprimé sur l'état de forme de son joueur qui avait plus joué depuis un moment. Il avait plus joué depuis le 25 février quand même, Nabil Fekir. Écoutez ce qu'en pense Bruno Genesio de la performance et du retour de son capitaine.
Nabil, on a vu qu'il avait rien perdu de ses qualités techniques, ses qualités offensives. Voilà, c'était un peu juste pour qu'il débute le match ce soir. On fera le point au jour le jour avec lui pour voir son évolution par rapport à ça. Mais voilà, on a vu que c'était le même Nabil que ce qu'on a connu depuis le début de saison. Et ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que je pense qu'on l'a pas suffisamment souligné, mais on est resté cette semaine avec Nabil blessé, sans notre un de nos meilleurs joueurs. Et malgré tout, l'équipe a resté performante. Donc c'était pas facile. Et là, on retrouve notre capitaine et un joueur qui va être déterminant pour la fin de saison.
Ah, il l'a toujours soutenu, hein, Bruno Genesio, oui. Nabil Fekir. Il en a fait son capitaine. C'est vrai que c'est un retour qui est important pour l'OL quand même.
Mais bon, c'est vrai qu'il fait une saison exceptionnelle. Et là, au moment où tu te bats avec l'Olympique de Marseille, d'avoir Fekir maintenant, ça par contre, c'est une très bonne chose.
On va accueillir Thibaut, supporter de l'OL qui nous a appelé au 32-16. Salut Thibaut.
Salut.
Bonsoir. Thibaut.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Thibaut.
Bon, t'en penses quoi, tiens, du retour de Nabil Fekir, Thibaut?
Bon, c'est une bonne nouvelle, mais bon, j'ai envie de dire, ces derniers temps, on n'en avait pas vraiment besoin, vu que Memphis Depay est excellent et fait des passes décisives, marque des buts, donc c'est que du bonus, quoi, Fekir en plus.
Ouais, je suis moyennement d'accord avec toi, Thibaut, pour une bonne et simple raison, c'est que le Depay en Ligue 1, très bien. Après, le Depay, il a été aussi comme les autres joueurs lyonnais, sauf Fekir, dans cette élimination inqualifiable, je dirais, face à Moscou. Je pense qu'un Fekir, on saura jamais, c'est du foot fiction, d'accord, mais on peut laisser croire qu'avec Fekir, peut-être, qui est pas seulement un leader technique, mais un leader
dans une période où Lyon était un peu moins bien aussi, après le match de Paris.
C'est là que, Thibaut, t'as un joueur comme Fekir, quand tu vas pas bien, qui fait la différence. Et à ce moment-là, en Coupe d'Europe, il aurait pu, lui, il a ce coup de patte, il a ce coup de patte de génie quand son équipe va mal. Parce que c'est facile d'être très bon quand ton équipe joue bien et que tu domines. C'est au moment où ça va mal, c'est là que le joueur, ce fameux joueur que peut dire Bruno Genesio.
Tu te reposes plus sur Fekir.
Complètement, c'est là qui fait la différence et qui remet en marche l'équipe. Et ça, ça aurait été important en Coupe d'Europe.
Mais ce qui posait problème à Lyon ces dernières semaines, et même depuis le début de la saison, c'était qu'on n'arrivait pas à marquer des buts et à gagner contre les petites équipes.
À tuer les matchs, tu veux dire,
face Thibaut. Au bloc bas.
C'est ça, à tuer les matchs.
Et voilà, et là, ces derniers temps, Genesio a trouvé la solution, parce que Memphis Depay est plus fin techniquement en tant qu'avant-centre que Mariano. Et ces dernières semaines, c'est plutôt pas mal, quoi.
Mmh. Oui, non, je suis d'accord avec la deuxième partie, en revanche.
Tiens, on va écouter Nabil Fekir également, voir comment lui s'est senti justement après ce retour sur les pelouses de Ligue 1. Quelles étaient ses sensations au capitaine de l'OL?
Tout allait bien, franchement. Après, c'est vrai que c'était un peu dur physiquement, mais voilà, j'ai essayé de prendre un maximum de plaisir et je suis content. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est que le genou aille bien et qu'il n'y ait pas de douleur. Je me suis bien préparé. Voilà, j'ai tout fait pour revenir en forme et j'espère que ce sera le cas.
Alors, il reste un mois à jouer, hein, tu le disais tout à l'heure. On est à 61 jours du début de la Coupe du Monde. Je vous pose la question. Laurent Fala vous la pose également sur le compte Twitter de l'After. Fekir du retour aujourd'hui face à Amiens. Croyez-vous encore en ses chances de disputer la Coupe du Monde au mois de juin? Vous êtes 67% à répondre non et 33% à répondre oui. Je vous pose la question à tous les trois, à toi Thibaut, à toi François et Ali. Est-ce que vous y croyez, vous, à Fekir à la Coupe du Monde?
On va laisser Thibaut peut-être d'abord nous...
Mais moi j'y crois. Mais c'est surtout au bout d'un moment, ça serait bien quand même que Didier Deschamps il regarde les statistiques des buteurs français, parce que en l'occurrence Fekir fait partie des premiers, et même s'il a pas marqué ces derniers temps vu qu'il était blessé, mais on a Olivier Giroud qui est remplaçant, Dembélé il joue pas
du tout. Giroud il faut même pas se poser, pardon Thibaut, Giroud il y est dans les 23.
Non, mais on peut pas avoir pas de que des joueurs qui ne jouent pas, quoi. Oui, qui ne marquent pas. Il faut des statistiques aussi.
Ouais, mais à ce moment-là, il pourrait même prendre plaisir. Mais non, mais moi, je pense que Fekir ira.
Toi, t'y crois?
J'y crois.
Ali?
Je me pose une interrogation. Je sais que Deschamps l'aime énormément parce qu'il a cette capacité à jouer sur les côtés, derrière l'attaquant, un petit peu à la place de Griezmann. Si Griezmann ne va pas bien, si un joueur qui a cette capacité à jouer ce jeu-là, c'est Fekir.
Le coup de pied arrêté aussi.
Qui peut se transformer en avant-centre ou en 9,5 dans le jeu de Griezmann. Mais
la question, c'est avec qui il est en concurrence aussi. Hein.
Avec qui?
Si c'est avec Thauvin, par exemple, on parle énormément de Thauvin, mais si on regarde les chiffres, Fekir est au-dessus niveau butin. Hein.
Mais c'est vrai que Thauvin fait une très très grosse saison aussi. Mais là aussi, Thauvin
c'est un point d'interrogation pour les 23. Et pourtant, Fekir a des meilleures statistiques. Hein.
Mm-hmm. Bah après, il n'y a pas que les stats qui jouent.
Ouais, Thibaut, exactement.
Il n'y a pas que les stats, mais bon, aussi sur le côté talent.
Mais surtout chez Deschamps,
faire des différences à n'importe quel moment, que ce soit pas sous but.
Surtout chez Didier Deschamps, parce qu'il a beau, il a eu beau nous expliquer il y a quelques temps, enfin il y a quelques années, même maintenant, il faut jouer en club pour être en équipe de France.
Voilà, non, ça existe.
Il
n'y
a pas
plus.
Que ça, on le voit bien. T'as des mecs, il y a des mecs qui sont performants.
Mais par contre, ça sera quand même une pointe d'interrogation au niveau physique et rythme de jeu côté Fekir, un peu moins côté Tovin. Ouais. C'est surtout ça.
Tiens, on va écouter Fekir justement sur la fameuse liste des 23 à venir de Didier Deschamps à 60 jours de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y croit, Nabil Fekir, au Mondial, lui?
Non, j'y pense pas trop pour l'instant. Voilà, même si ça approche vite, mais plus important, comme j'ai dit, c'est que je prenne du plaisir sur le terrain et après on verra.
Ça va dépendre aussi s'il prend 7 ou 6 attaquants. Parce que c'est 7-7-6. Tu fais une ligne, tu fais 7 défenseurs, 7 milieux, 6 attaquants, ou tu fais
6 milieux.
Tu peux le faire dans tous les sens, hein. Après, c'est vrai que en attaque, on est tellement, tellement armé. Tiens, hey, Lemar, Mbappé, Giroud, Griezmann,
Dembélé.
Bon, peut-être que la blessure de Coman, évidemment, le malheur des uns. Non, mais Coman n'ira pas. Ouais. Le malheur des uns fait le bonheur d'eux. Alors, le bonheur
Coman,
de Thauvin, le bonheur de Fekir.
Martial,
c'est blessé.
Monde, hein.
Martial, ouais, c'est vrai qu'il joue. Alors qu'il joue
Martial,
plus.
Martial, je pense que
ouais, ça va être dur.
Ça va être très compliqué.
La Casette aussi, hein, finalement. Alors, ouais, même s'il est, bon, il joue finalement Ligue Europa, puisque Aubameyang ne peut pas jouer. Et attends, si Arsenal va au bout? Si Arsenal la soulève, là, la coupe.
Ouais, mais c'est pas le fait de gagner une Coupe d'Europe qui te donne un billet pour les 23.
Ça nous fait quand même beaucoup de questions concernant beaucoup de joueurs.
Ouais.
La preuve,
non,
c'est que
Deschamps
ne se posait pas trop la question pour Fekir, il se blesse au mauvais moment.
Tu penses, toi?
Ben, au moment où Deschamps voulait vraiment bousculer, vraiment mettre Fekir, parce qu'il adore Fekir, il se blesse.
Ouais.
C'est un petit peu dommage, parce que là, il aurait pu avoir quand même une assurance comme un joueur qu'il aime beaucoup.
Et du coup, avec cette victoire, l'OL, bah, ils sont à 4 points de Monaco. Alors, Monaco qui joue demain face au Paris Saint-Germain, ce sera un match difficile au-delà du fait que ce soit le PSG, parce que si le PSG s'impose demain, le PSG sera sacré champion de France. Est-ce que tu y crois, la deuxième place, Thibaut, pour Lyon?
Pas spécialement, parce que bon, certes, demain, je pense que Paris va gagner. Et donc, certes, il y aurait 4 points, mais il y a encore
pas mal de
chemin pour les rattraper. Et honnêtement, moi, je reste accroché à la troisième place et elle me satisfait pleinement.
Mmh. Je suis d'accord avec lui.
Laurent Falla,
il faudrait vraiment que Monaco lâche. Et ça fait quelques semaines où ils sont quand même pas trop mauvais, quoi. Donc, alors que Marseille est plus fatigué ces dernières semaines et ils ont l'Europa League encore à jouer. Donc, c'est plus Marseille qui, dans la dernière ligne droite, je pense, n'arrivera pas à nous rattraper.
Tiens, sondage de Laurent Falla sur le compte Twitter de l'After. Qui voyez-vous deuxième à l'issue de la saison? Vous êtes 77% à répondre Monaco, 11% Lyon et 12% Marseille. C'est-à-dire les gens croient même plus à Marseille qu'à Lyon, visiblement, hein, sur Twitter.
Pour la deuxième place?
Ouais.
Je me pose pas la question.
Pour toi, ce sera Monaco.
Ça sera la troisième place.
Même au Colabérage, ils sont devant Lyon et très très loin devant Marseille.
Exactement.
Merci Thibaut d'avoir été avec nous.
Merci Thibaut.
Bonne soirée.
Salut Thibaut. Tiens, il y a Lionel également, autre supporter de Lyon, qui est avec nous en direct dans l'After. Salut Lionel.
Salut messieurs.
Salut Lionel. Ça va Lionel?
Ah bah ça va à fond. On va finir troisième au minimum. Tout va bien.
Ah bah tiens, tu crois la deuxième place, toi? Tu fais partie des quoi? Des 77% qui voient Monaco terminer deuxième, des 12% qui voient l'OM, ça je crois pas, ou des 11% qui voient Lyon terminer deuxième à l'issue de la saison?
Moi je suis sur les 11 pour une raison un petit peu particulière, qui est je pense que Monaco pour l'instant ils sont encore motivés pour aller chercher Paris et que le 3-0 qu'ils ont pris en coupe leur reste un petit peu en traviole et ils sont encore bien motivés. Après ce match-là, ils auront plus grand chose à jouer et je pense surtout il y a pas mal de joueurs qui auront en tête la Coupe du Monde, qui auront en tête les mouvements vers d'autres clubs et peut-être qu'il y aura une démobilisation, on sait jamais. Ouais. Donc le but du jeu, c'est ce qu'a dit Genesio, c'est ce qu'a dit l'ensemble du staff lyonnais, gagnons tous les matchs et puis on verra bien.
Oui. Tu veux dire chercher Monaco, pas chercher Paris en fait?
Ah bah non, pas chercher Paris, non.
Et sincèrement, que Monaco puisse faire un bon match à Paris, c'est une chose, mais ça sera quand même pas évident hein, de toute façon. Et ils ont tablé sur cette deuxième place, donc cette deuxième place, ça sera mission impossible. Par contre, moi je le crie haut et fort, attention à Lyon, qui ne pense pas que cette troisième place est acquise, parce que les Marseillais vont tout faire, malgré la Coupe d'Europe.
Bah Marseille qui a 3 points. Hein.
Exactement, pour récupérer cette troisième place.
Hein. Oui, mais on a à peu près les mêmes adversaires avec Marseille, et très franchement, vu la dynamique lyonnaise du moment, je pense qu'ils ont compris un certain nombre de choses, et que Genesio aussi s'est repris en termes de positionnement de joueurs sur le terrain. Je pense qu'il a mis les bons joueurs aux bons endroits. ça peut être, ça aurait pu être un peu plus difficile de jouer des grosses équipes en jouant avec le 4-4-2 en losange. Si les équipes avaient l'occasion de jouer sur le côté, on a eu une saison comme ça où on a joué en losange toute la saison et où dès que les équipes commençaient à jouer sur les côtés, on avait beaucoup de difficultés. Or, avec les adversaires qu'on a jusqu'à la fin de notre saison, je vois pas quel match on pourrait perdre.
Merci,
un match nul peut-être, mais je vois pas Lyon perdre un match d'ici la fin de la saison, quoi.
Écoute la réponse dans, allez, 5 journées maintenant, c'est ça?
Ça va vite arriver.
Ah bah ça c'est clair, ah, c'est oui. Dans un mois mon gars. Ça va venir vite.
Par contre, vous pensez quoi vous si Genesio est maintenu au-delà de la saison?
Bah ça a l'air bien parti non? Moi
je suis pour.
Qui tient,
Moi je suis pour.
Moi je suis pour aussi.
Bien sûr.
Ça arrive, je comprends pas les gens qui critiquent
parce
Genesio.
Il y en a plein pourtant, Lionel, il y en a plein à Lyon.
Non, parce que tout le monde adore le changement. Ils sont
Il y a des meneurs, c'est comme dans les tribunes quand il y a des conneries qui sont faites, il y a 2-3 meneurs. Exactement. Et puis il y a des gens qui suivent. Ouais. Mais je pense que Genesio, il a perdu quand même Valbuena, Gonalon, Tolisso, Lacazette.
Tous les leaders.
Il a refait une saison complète et il va finir 3e avec un des meilleurs des scores de points qu'on ait eu depuis 2007.
Exactement.
Non, mais on fait souvent un procès à Genesio comme on a un peu fait un procès à Jacquet. Il est pas assez sexy, il est pas vendeur, il fait pas des...
Mais il est du cru et moi je suis content.
Tu vois, c'est un peu ça le problème, moi, entre guillemets le problème. Ouais. Il a pas de problème Genesio, c'est nous qui lui en créons. Ouais.
Hein. Oh merci Lionel, merci Lionel, belle fin de saison à toi. Dans quelques instants on sera avec Philippe Auclair, on va aller faire un petit tour du côté de l'Angleterre, on va revenir sur ce Tottenham City. On va parler d'Olivier Giroud également qui a claqué un doublé avec Chelsea, puisque justement on est à 61 jours de la Coupe du Monde. Il y a Liverpool qui a battu Bournemouth 3-0, il y a Burnley qui sera peut-être européen la saison prochaine, qui a battu le Leicester.
Très belle saison.
2-1. Et il y a, tiens, petite info également, Wolverhampton va retrouver la première ligue la saison prochaine. Voilà, ils ont obtenu leur montée sur le canapé, parce qu'il y a eu un match nul entre Brentford et Fulham, et du coup, ils retrouveront l'APL la saison prochaine. A tout de suite pour la suite de l'After.
RMC, le super football show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Avec François Manarado. Et avec Ali Benarvia, bien entendu, on était en pleine Ligue 1, messieurs, dames, mais c'est terminé, on passe en finale à l'étranger, on va parler de l'Angleterre avec François Manarado et Ali Benarvia. Pourquoi il rigole?
Mais parce que j'attends, je me suis décalé.
Non mais j'attends Simone, ouais.
Simone Rovira sera aussi avec nous dans quelques instants.
Le Rovira.
Bien entendu. En Angleterre, 34e journée de Première Ligue aujourd'hui. Southampton s'est incliné face à Chelsea 3-2 avec un doublé d'Olivier Giroud. Liverpool a battu Bournemouth 3-0. Et puis ce soir, voilà, match de gala. Match en prime time, ce qui est rare en Angleterre, à 20h45 entre Tottenham et Manchester City. Et du coup, eh bien, Philippe Auclair n'a pas pu faire la sieste et il est avec nous. Salut Philippe.
Salut les amis. Oui, je vous parle de Wembley où nous sommes toujours à Wembley, à nous remettre des émotions d'un match absolument magnifique.
Mais c'est quoi cet horaire, Philippe, alors là?
C'est un horaire complètement débile, on est bien d'accord, ça n'a absolument aucun sens, c'est pour des raisons qui sont purement économiques. C'est quelque chose qui est très mal vécu par les supporters, en particulier les supporters en déplacement. Vous pouvez imaginer comme, malgré la victoire sur les terres de Tottenham, comme ça va être sympa pour les supporters de Manchester City d'abord de revenir du stade de Wembley avec les queues qui n'en finissent pas pour revenir au centre de Londres, puis ensuite prendre leur train pour revenir à Manchester, ça va être cocasse. Non, c'est quelque chose, c'est tout à fait raison de le signaler, qui était rarissime et qui risque malheureusement de devenir une de ces nouvelles habitudes. Ah. Un créneau horaire de plus, bah oui, tu offres davantage de matchs à la télévision. Parce que l'Angleterre est un pays où curieusement on voit moins de matchs de notre championnat à la télévision que dans d'autres pays.
Ah, parce qu'ils sont en même temps, c'est ça?
Mais parce que nous ne montrons aucun des matchs du coup d'envoi de 15h le samedi.
Ouais.
Donc déjà ça retire beaucoup de matchs. Et du coup, bon, pour pouvoir circonvenir cette réglementation qui est là pour protéger les divisions inférieures et le championnat amateur, et ben donc on a des matchs qui sont maintenant disputés le vendredi, ce qu'on n'avait jamais, des matchs qui sont disputés désormais le samedi soir à 19h45. Tu vois, j'ai même du mal à l'histoire, j'ai dit le vendredi, non, le samedi soir. Ouais, donc on avait quatre coups d'envoi différents aujourd'hui.
Mais Philippe, tu parlais de raisons économiques pour le créneau horaire de ce match de ce soir, mais il est à l'avantage sinon de la
première
oui, non, mais si c'est pour des raisons de marketing et de vendre la première ligue, ça ne profite qu'au marché nord-américain, mais il est déjà conquis, non?
Non, mais ça profite au marché nord-américain qui est en phase de conquête et où récemment, d'ailleurs, le derby de Manchester a battu, je crois, tous les records pour ce qui est de du nombre de téléspectateurs d'un match de championnat étranger. Mais c'est aussi et pour des raisons économiques qui ont trait à l'Angleterre. Ce qu'il faut, si tu veux, il y a eu un tassement des droits TV. Oui. Pour la prochaine tranche, ça n'a pas baissé véritablement, il y a un tassement. Donc on cherche des nouvelles façons de pouvoir offrir du produit. Une de ces façons, c'est d'avoir les matchs à 19h45 un samedi soir. Mais heureusement, on a eu un vrai superbe match.
Alors justement, parlons-en. Victoire 3-1 de City face à Tottenham. On va revenir, si tu veux bien, dans quelques instants, notamment sur la prestation d'Hugo Lloris. Juste avant, quand même, là, ça y est, ça sent le titre là pour City. Là. Après, ces dernières déconvenues pour Guardiola.
Alors, ça pourrait être le titre dès demain, si jamais Manchester United ne gagnait pas contre West Brom. Je pense que c'est assez improbable.
Oui, son dernier West Brom, on rappelle.
Complètement à la rue. Ça pourrait être également le titre, je crois, en milieu de semaine, lorsque si également Manchester United fait un mauvais résultat lors d'un de ces innombrables matchs reportés qu'on va vivre entre mardi et jeudi, dont un match à la 31e journée. Je ne vais pas vous expliquer tout ça à cause de la FA Cup. Mais bon, surtout ce qu'on a vu, c'est qu'on a retrouvé sur 90 minutes l'équipe que l'on connaît, qui était conquérante. Qui a montré des choses, je pense, pendant la première période en particulier, qui est tout simplement magnifique, qui physiquement, techniquement, tactiquement, psychologiquement a tenu le choc, alors que tout le monde l'attendait au détour après les énormes désillusions, que ce soit dans le derby de Manchester ou en Ligue des Champions. Je suis journaliste, donc je dois être neutre, mais je ne vous cacherai pas que je suis absolument ravi que du coup ça va peut-être relativiser les propos que j'ai pu entendre, qui est une rare débilité sur la valeur de cette équipe de Manchester City ou de son entraîneur. C'est une superbe équipe, elle n'est pas parfaite, elle est perfectible. L'entraîneur est tout simplement l'un des plus grands de notre époque. Il y en a qui ça ne plaît pas. Ils ont rappelé aujourd'hui l'équipe et l'entraîneur quelle était leur place, c'est-à-dire celle de premier en Angleterre. Et ils n'ont fait que le style. Et une équipe de Tottenham qui pourtant était remontée, il n'y a pas de doute, dans un stade archi-comble.
Et qui cartonne en 2018 en plus, Tottenham. Mm-hmm.
Complètement, qui était, ouais. C'était l'équipe de l'année calendaire, si ça veut dire quoi que ce soit. Mais en tout cas, ils étaient sur une série, je crois, de 14 matchs sans défaite. Ils avaient, quant à eux, très très bien réagi après l'énorme déconvenue contre la Juve. Mais ils n'ont pas pu exister face à une équipe de Manchester City. Et moi, c'est ça une chose que je trouve extraordinaire. C'est le fait que cette équipe est quand même sur les rotules avec tous les matchs qu'elle a livrés. L'intensité de ces matchs. Regardez contre qui elle a joué récemment lors de ces derniers jours. On parle que du très très haut de tableau et elle a montré qu'elle avait les capacités physiques. Elle a trouvé des ressources assez incroyables et on a eu des scènes qui étaient en fait des scènes de couronnement, hein, la fin au cours de ces finales. Je ne sais pas si vous avez vu Pep Guardiola qui est allé saluer les supporters de Manchester City qui étaient complètement de l'autre côté du stade, Ederson qui est allé donner ses gants, tous les joueurs qui étaient là-bas. Enfin bref, ils ont célébré ça comme on célèbre un titre et je crois c'est assez normal. Ce n'est pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, le prochain match, je crois que c'est contre Swansea. Je ne pense pas me tromper. Ils n'ont plus besoin que de 3 points et puis ils vont les avoir. Ils vont décrocher un titre magnifique. Il y a encore des records à battre, du nombre de points, du nombre de buts marqués. Et je pense que à l'avenir, on reverra le passage à vide, le petit trou d'air qu'ils ont eu, comme étant plutôt, non pas une aberration, mais un rappel que toute équipe est humaine.
Il y en a un autre qui est humain, mais qui était dans le camp d'en face, Philippe. Alors c'est Hugo Lloris. Alors il restait lors des deux derniers matchs sur deux erreurs qui avaient amené un but. Et là, ça a été le cas également aussi. Il a fait une grosse faute. Il aurait pu être exclu, même Hugo Lloris, sur l'une de ses interventions.
Non, il pouvait pas être exclu. Il pouvait pas être exclu. C'est soit la faute est en dehors de la surface, l'arbitre, ce qui était le cas, l'arbitre le voit. Et là, il y a carton rouge et coup franc. Soit la faute est dans la surface.
Ah non, mais attends, mais moi je te parle pas.
Comme il essaie de jouer le ballon.
Oui, mais il peut lui choper le genou, Philippe. Hein, le pied est très haut quand même. Moi, c'est à ça que je fais allusion surtout.
Ah, alors, d'accord. Si jamais tu penses qu'il y a en effet geste violent, là,
il peut lui faire très mal, pour le coup, sur le coup. Mais c'est vrai que Lloris, il est pas bien en ce moment, hein. On est à 2 mois du mondial, là.
Écoute, il est pas bien. Moi, il a été moins constant cette saison qu'il l'a été les saisons précédentes. Je continue de dire que le but qu'il prend contre Stoke, il a été avani, alors que franchement, il fait peut-être un tout petit mauvais choix. Là, la sortie qu'il fait, je vois pas tellement quel est le choix qu'il peut faire. Il la loupe un peu, il la loupe même beaucoup. Mais cela dit, derrière, il sort deux, trois arrêts qui sont d'assez grande classe. Et je pense qu'on se fait une montagne, franchement, de quelque chose qui n'est pas si inquiétant que cela. Si jamais c'était, par exemple, des fautes de main, par exemple, sur sa ligne, d'énormes erreurs qui faisaient que des tirs rentraient dans le but alors qu'ils auraient dû être sauvés, des ballons qui étaient remis dans le chemin d'un attaquant adverse, ce genre de choses, là, ok, et match après match, mais bon... Citez-moi un gardien qui cette saison n'ait pas fait des erreurs pareilles. Je veux dire, Derrea. Bah,
disons que là, ils sont rapprochés, quoi. Donc ça se voit. Enfin, c'est.
Oui,
en parle
ça
plus.
Se voit, mais de toute façon, ouais. On est tous conscients qu'il lui.
Chez un gardien, ça se voit de toute façon.
C'est pas sa meilleure saison, hein. Ouais. Ça, on est bien d'accord. Ouais. Bon, c'est pas sa meilleure saison.
Alors, cet après-midi, alors un Français qui lui va bien cet après-midi, Chelsea s'est imposé à Southampton 3-2. Olivier Giroud a joué une demi-heure. Il est rentré dans au cours de la dernière demi-heure et il a claqué un doublé. C'est ses premiers buts avec Chelsea en Première Ligue. Voilà, il avait plus marqué d'ailleurs en PL depuis un match à Southampton justement. Avec Arsenal, est-ce qu'il mériterait pas d'être titulaire enfin là avec Chelsea, Giroud là?
Écoute, je crois que on va avoir la réponse à ça. Vu les attentes de Morata et vu la façon dont il a eu un impact, je serais tenté de dire, mais absolument. Et ça, c'est quelque chose auquel on aura la réponse le week-end prochain, pas en championnat, mais en cup. Mais en cup. Et je suis certain qu'Antonio Conte, c'est quelque chose qui va lui passer par la tête parce que Morata est pas bien du tout. Alors quelles sont les possibilités pour eux si Morata n'est pas bien? Ben c'est soit jouer Eden Hazard en faux numéro 9, soit jouer Olivier Giroud. Et là aujourd'hui, ben il répond présent, il marque deux buts, il marque des points. C'est visiblement ça a été très bien vécu également par les supporters de Chelsea. Si j'en crois les réactions que j'ai vues sur leur réseau. Leur page, etc. Il y a beaucoup de supporters de Chelsea pour qui une titularisation d'Olivier Giroud le week-end prochain serait une excellente chose. Voilà où nous en sommes. En tout cas, on pouvait pas lui demander de faire mieux que ce qu'il a fait, de renverser le match. Enfin, il n'y a pas que lui qui a renversé le match, il y a aussi Conte qui a renversé le match, où on a vu que c'était encore un manager qui avait de la ressource, qui change sa défense en 3 en défense à 4, qui fait deux changements et comme par hasard, immédiatement dans la foulée, bah, paf, ils reviennent dans le match et ils finissent par le gagner. Tout l'inverse de Marquinhos et de Southampton.
Il est quand même fascinant, Ali, hein, Olivier Giroud.
Ben, c'est l'avant-centre qui est là pour marquer des buts. C'est sûr que on se posait des questions en départ d'Arsenal s'il allait jouer, c'est ce qu'il voulait.
Et finalement, il joue pas beaucoup plus. Hein.
Et le problème, c'est qu'il, je sais pas s'il joue pas moins, en fait.
Alors, avant le match d'aujourd'hui, il jouait moins.
Et ce qui est assez impressionnant, c'est que même quand il marque des buts à Arsenal, c'est pas pour autant qu'il jouait plus. Est-ce que là, avec ces deux buts-là, Conte jusqu'à la fin de saison, on va le faire jouer? J'espère, surtout qu'il est pas trop content de Morata. Et je crois que ces deux buts sont venus au moment où il faut pour qu'il puisse vraiment enchaîner les matchs jusqu'à la fin de saison.
Un mot sur le bureau de Manchester City cette semaine en Ligue des Champions, Philippe, Liverpool qui a gagné 3-0 face à Bournemouth.
Impressionnant.
Alors, il n'a pas du tout fait tourner d'ailleurs Jürgen Klopp hein, sur ce match.
Mais pourquoi ferait-il tourner? Il n'y a aucune raison. Il y a tout le temps que l'on veut pour récupérer. Il est face à une équipe de Bournemouth. Ce qu'il veut, c'est... Je crois que Klopp veut tout simplement que la dynamique du succès continue.
Raison,
Et sur quoi il a parfaitement raison.
Mais c'est une bonne recette, bien sûr.
Il a parfaitement raison. Il jouait face à une équipe de Bournemouth qui était extrêmement coriace cette saison pour beaucoup d'adversaires qui, en plus de ça, a la mauvaise habitude de, lorsqu'elle est menée au score, de revenir et d'égaliser ou de gagner. Et on a vu une équipe de Liverpool qui, pour moi, on le dit maintenant régulièrement, c'est le fait que non seulement elle sait attaquer comme on le savait, mais elle sait aussi défendre mieux qu'elle ne le faisait. Elle est beaucoup plus équilibrée, elle est beaucoup plus sereine. Bon, ils ont concédé quelques occasions, ils n'ont pas concédé de but, mais ils ont concédé quelques occasions. Mais on voit la progression de match en match, la confiance. Et puis bien évidemment, tu ne peux pas ne pas mentionner le fait que Mohamed Salah, bah, il a encore marqué, voilà, son 40e but de la saison, son 30e en première. Oui, c'est son 30e en absolument. Mais... Et que il est en face pour battre des records dont on pensait franchement qu'il serait très difficile à atteindre. Je pense celui d'Alan Shearer, par exemple. Mm-hmm. C'est tout simplement magnifique. En plus, vous avez vu le but qu'il met. Parce que bon, on a l'habitude de Mohamed Salah qui dribble.
Ouais, il met une jolie tête, bien dosée,
Il fait l'appel de balle et en même temps, il suit la tête. C'est assez exceptionnel. Mais moi, j'ai eu la chance d'être à City pour le match retour de Champions League. Et ce trio, ils ont un trio magique.
Pas les trois marqués, hein.
Non, mais c'est pas que le marqué.
Mané, Salah, Firmino.
Et ils ont perdu aujourd'hui. Coutinho.
J'ai vu un trio pendant le match et surtout sans ballon parce que quand tu regardes le stade, je regardais surtout
tu
ça.
Tu vois les mouvements.
C'est intelligent, c'est costaud physiquement, c'est bon techniquement, c'est tout propre ce qu'ils font. Et en plus, et c'est une mécanique exceptionnelle de ce trio-là, qui arrive, que ça soit Firmino, Mané ou Salah, chacun à leur tour, être devant, être au milieu, être sur le côté, de partout, c'est impressionnant. C'est pour ça que je me dis, attention à Liverpool en Champions League.
Ouais, bon après c'est vrai qu'à Rome ils le connaissent bien Salah, mais je suis pas sûr qu'ils vont le reconnaître.
C'est pas le même.
Qu'ils vont le reconnaître par rapport à la palette de jeux qui a évolué, qui s'est enrichi. Moi je voulais juste faire une remarque par rapport à ce qu'on disait avec Philippe sur le fait que justement Klopp prend la bonne décision de ne pas faire tourner. On en parlait hier soir par rapport au calendrier de Marseille, la demi-finale d'Europa League. Est-ce qu'il faut faire tourner par tourner? Moi je crois à une chose, et je le dis devant Ali qui a été joueur. Quand un entraîneur commence à dire à un joueur ou à des joueurs qu'il les trouve fatigués et qu'il va faire tourner, et ben le joueur 24 heures après il vient te voir en te disant qu'il se trouve fatigué lui aussi.
Il y a un aspect psychologique. Mais merci Philippe en tout cas d'avoir été avec nous.
Merci
à vous.
Bonne soirée Philippe, merci
jamais
beaucoup.
Jamais dire à un joueur qu'il trouve fatigué.
Voilà, bon repos, il l'a bien mérité notre Philippe.
Non mais la dynamique est importante. Quand tu as 4-5 jours, tu n'as pas besoin de faire tourner. Le joueur il aime qu'une chose, c'est jouer, pas s'entraîner.
Exactement.
Messieurs, Simone va arriver dans le...
Oui, sa place est prête. Sa place est prête, Nico.
La Serie A, 32e journée
de Serie A. Non, arrête. À chaque fois, Simone arrive.
Lui, il aime bien.
Il veut faire l'accent italien.
J'adore.
Il aime bien.
Si, tout à
fait. Il aime bien, lui.
Vas-y, allez.
32-16.
Voilà.
Il dit n'importe quoi, en plus.
C'est ça qui me plaît.
Simone, tu veux pas faire l'accent portugais?
Allez, on vous attend au
32-16. Fais l'accent tougèche.
Mais il a pas l'accent. Mais lui, il a l'accent de Tudal. Il sait même pas rouler les R. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse l'accent tougèche? Quoi? N'importe quoi, tu sais quoi, tu vas arriver dans quelques instants. On vous attend à 32-16 avec Ali Benarbia et François Malardo, tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Ali Benarbia est toujours avec nous, François Malardo également. Simone Rovera nous a rejoint, bien entendu. Bonsoir Simone.
Bonsoir.
Ça va Simone?
Oui, ça va.
Je me retiens, je te jure, c'est pas facile. C'est dur pour moi, tu sais.
Mais non, mais tu vas y arriver.
Je te jure que c'est dur pour moi.
C'est déjà assez dur de supporter tes deux papes tous les soirs. Donc
ça va.
Tu peux faire un effort du côté des Italiens.
Oh, l'arrêté.
Dis-le, vas-y.
Non, je le dis pas.
Allez. On va accueillir Fred Hermel, messieurs, qui est avec nous. On va faire un petit tour en Espagne, bien sûr. Salut, Fredo.
Hola, chicos.
Salut, Fred.
Salut. Et bien entendu, un bisou spécial à Simeone. Simeone, j'allais dire. Simeone, je ferai un bisou demain à Simone. Avec qui la semaine a été un peu compliquée. Je veux dire, on a vécu des moments.
Ah, le salaud.
Parce que c'est une longue semaine pour nous. Mais on s'est rabiboché.
Rabibochato. Tu vois, j'ai pas pu me retenir, tu vois.
Parce que toi, tu peux empirer.
Toi, tu dis qu'il n'y a pas pénalty.
Non, on n'est même pas rentré dans ces débats.
Non, mais t'as,
on n'est même pas rentré sur ces débats.
Non, attends,
plastiquer la maison.
Non, ne spoil pas. Don't spoil, please. On va revenir dans quelques
instants. Don't spoil.
Avant cela, Fredo, un petit mot sur le Barça qui a battu Valence parce que c'est la grosse affiche de la 32e journée de Liga. But de Suárez, Umtiti aussi. Parejo avait réduit la marque en toute fin de match. Le Barça qui a battu un record aujourd'hui, Fredo.
Oui, record absolu historique, 39 victoires de suite sur deux saisons bien entendu. Pardon, pas 39 victoires, 39 matchs sans défaite. Le record de la Real Sociedad de 38 a donc été battu. Mais je vais vous dire
c'était
que
c'était un record qui appartenait à la Real 1980 je crois. C'est ça
ouais, exactement, ouais. Exactement. Ouais. Et donc mais dans un autre contexte, ça aurait été génial, sauf que là ils sont fait éliminer à Rome mardi donc là ils sont un peu en dépression quoi, c'est l'ambiance un peu particulière parce que le Barça fait finalement une très belle saison parce que gagner le meilleur championnat du monde c'est quand même pas rien. La semaine prochaine et j'y serai d'ailleurs, il y a la finale de la Coupe au Wanda Metropolitano contre Séville, le Barça contre Séville, donc ils peuvent faire un très beau doublé cette saison, sauf que si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, ça n'aura pas existé. C'est ça qui est terrible.
Okay.
C'est pour eux
autant et fait, beaucoup plus important la Ligue des Champions que le championnat espagnol.
Ah mais non mais si le Real gagne la 13e Ligue des Champions, la 3e de suite, la 4e en 5 ans, non mais c'est ça ce qui peut se passer. Et pour le Barça, mais c'est catastrophique. Le Barça, c'est 3 saisons de suite éliminées en quart de finale de Ligue des Champions. Donc c'est-à-dire que ce qui pourrait être un truc... Si par exemple, si le Real ne gagne pas, la saison du Barça, elle sera correcte. Parce que franchement, le problème, c'est pas d'être éliminé en quart. C'est comment tu as été éliminé.
Ouais, c'est ça qui est. Je partage à moitié un peu ton analyse. Dis-moi, quel est le...
C'est pas mon avis, c'est un constat de l'Espagne après 25 ans, mon ami.
Mais la question que je voulais te poser, c'est quel est le nombre de... la différence entre le nombre de titres de champion du Real et du Barça. Elle est abyssale.
Elle est un... C'est 22, je crois, c'est ça, il me semble.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme. Dizaines, même en Ligue des Champions.
C'est énorme. Ouais, donc, quand tu dis que si le Real gagne la troisième de suite, ce qui n'est plus arrivé depuis les années 70, n'est-ce pas, entre l'Ajax et le Bayern, et la treizième de son histoire, ça renvoie un peu le Barça dans la place qu'il a tenue pendant des dizaines d'années en Espagne, très en loin, étant, derrière c'est le Real.
Oui, c'est ça. Non, puis surtout parce que t'as un joueur exceptionnel, peut-être l'un des meilleurs de l'histoire, où on fera la conclusion après le mondial, mais qui s'appelle Messi et t'as Messi et finalement le Real reste devant. C'est ça qui est terrible. Pas en Liga parce que le Barça a gagné beaucoup plus de Liga cette année avec Messi que le Real Madrid qui en a gagné que deux en 9 ans le Real. Mais à partir du moment où t'as la compétition suprême qui est la Ligue des Champions qui est quand même en Espagne, ils adorent ça. Enfin c'est vraiment c'est né avec le Real. Mais c'est vrai que le Barça ces dernières années était ravi hein quand même de gagner Ligue des Champions avec Guardiola, avec Messi, avec Iniesta, Xavi, etc. Donc ce serait très dur pour eux de pas gagner. Et il y avait une drôle d'ambiance aujourd'hui au Camp Nou. Il y a eu le match était très sympathique contre Valence. Valence aurait très bien pu égaliser. Ça a pas été, ils ont loupé pas mal de grosses occasions. Mais bon, finalement, il y a une victoire un petit peu qui a un peu de pommade hein, voilà, parce que voilà, le Barça fait une très belle saison et est assuré de gagner le titre de Liga.
Alors Fredo, on va évoquer d'autres matchs, on n'a pas beaucoup de temps. Un petit mot quand même sur Séville Villarreal. Il y a eu 2-2 dans ce match. Nzonzi a marqué. Voilà, très très beau match. Alors Séville quand même qui enquille un sixième match en victoire. Ils ont un peu la place du con là, les Sévillans, parce qu'ils sont même pas qualifiés pour la Coupe d'Europe pour l'instant en championnat.
Même pas pour la Ligue Europa, hein, puisqu'ils sont septième. Hein.
Ouais, exactement.
Il y a le Bétis qui fait un parcours extraordinaire, qui sont cinquième. Il y a Villarreal qui est juste devant. Donc Séville, si tu te retrouves sans rien, c'est compliqué. Alors que tu viens de faire un parcours très très beau en Ligue des Champions, quand même, parce que perdre en quart contre le Bayern après avoir perdu 2-1 chez toi en faisant un match très correct et après a fait un bon match 0-0 à Munich. Bon voilà, en plus t'as Ben Yedder qui a fait n'importe quoi.
Alors il a pris il a été exclu. Alors raconte-nous la scène, il a joué qu'une minute finalement.
Ouais, 8 minutes, c'est ça. Donc c'est le record l'un des records de l'histoire d'expulsion Voilà, donc bon, alors Ben Yedder, c'est sa première expulsion en plus de sa carrière, hein, donc c'est voilà, deux cartons jaunes, c'est con, voilà, mais ça arrive.
Et il s'est excusé
sur Twitter,
sur Twitter très très vite.
Alors en fait, il a pris un jaune, il a applaudi l'arbitre et il prend un deuxième jaune.
Ouais, voilà, mais c'est
bon, après c'est pas violent. C'est bête, hein, l'arbitre il avait mal au soleil. L'arbitre, il avait mal au soleil ou quoi? Un jaune puis un rouge de
suite. Il a voulu se faire
recoller. Moi, je trouve ça un peu,
c'est un peu bouillon. Ouais, mais après, les mecs le savent.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
T'as pas le droit de, parce que franchement, en Espagne, après, tu sais, il y a des codes culturels. Applaudir au nez de l'arbitre en Espagne, c'est hyper appuyé, en fait. Peut-être qu'ailleurs, c'est des trucs, mais en Espagne, ça se fait pas. Voilà, s'il y a des choses comme
ça. Tu peux l'insulter, mais faut pas l'applaudir.
Voilà. Bah, presque ça,
mais c'est pas presque. Au Portugal, c'est la même.
Ouais, parce que
tu peux appeler sa mère comme tu veux. Tu le lis sur les lèvres, les mecs, ils leur gueulent à l'oreille, mais faut pas l'applaudir. Ouais. C'est important. Ouais.
C'est culturel après, voilà. Et c'est vrai que, il y a cette dimension. Alors, pour Ben Yedder, il est en Espagne depuis deux saisons maintenant, mais voilà, en France, peut-être que c'est moins,
ça dépend, sur qui il serait tombé en France.
Voilà, ouais, ça dépend. C'est dommage parce que Ben Yedder, il fait quand même une très belle saison avec Séville, quoi. Donc,
alors, Fredo, il y a aussi eu un autre événement, mais c'est en conf de presse cette fois-ci. Demain à 20h45, il y a un match entre Malaga et le Real Madrid. Alors, Madrid qui a sorti la Juve, et je me tourne vers toi, Simone, en quart de finale de Ligue des Champions. Alors, non sans mal, grâce à ce penalty qui a été marqué par Cristiano Ronaldo. Alors, une faute qui a été signalée par l'arbitre Michael Oliver et qui a fait débat. Il y a certains titres, et notamment en Italie, qui ont parlé d'un vol, d'ailleurs, sur ce match.
Oui. Et ce qui gêne Zizou, finalement, c'est pas forcément l'Italie, parce que les médias italiens.
Alors attends, on va l'écouter, Fredo.
Soit très vexé, etc. Ce qui a énervé Zizou, c'est ce qui s'est dit en Espagne, et notamment en France.
Eh ben, on va l'écouter, Zidane. Il était très, très colère en conférence de presse aujourd'hui à ce sujet.
Je suis indigné, c'est une honte en fait quand on parle de vol. Donc je suis très 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 déçu, très remonté pour ce qui se dit. Pas sur forcément juste le penalty en lui-même, parce que comme j'ai dit en fait, on peut parler qu'il y a penalty, il n'y a pas penalty, chacun. Ça c'est l'interprétation, c'est toujours la même chose. L'arbitre il a décidé qu'il y a penalty. Pour moi il y a penalty. Maintenant pour d'autres il n'y a pas penalty. Mais tout ce qu'on peut dire derrière en disant qu'en fait on n'a qu'à nous donner la Champions League d'entrée au mois de septembre, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça. Enfin, Mais voyons, voyons.
Ouais, il était pas content, hein, Zidane, hein, qu'on dise ça du coup.
Non, alors je vais raconter le contexte parce que moi j'avais prévu de poser cette question là-dessus sur ce qui s'était dit par rapport à ce penalty, notamment le mot vol, parce que je sais très bien que ça va l'énerver, que ça l'énerver. Et la question lui était déjà posée en espagnol, et en espagnol il avait déjà eu des mots durs. Et moi je lui ai reposé la question en français pour répondre en français. Et là il a même dit ouais, je préfère encore le dire en français pour que ce soit très clair. Pourquoi? Parce qu'il a entendu des choses en France qui lui ont beaucoup déplu. Parce qu'il y a une chose, pour lui, c'est le mot vol, ça veut dire que lui et son équipe sont pas des gens honnêtes. Et ça, c'est pas possible pour lui. C'est inacceptable pour lui. Et je veux vous assurer que qu'il est très vénère après ce qu'il a lu et entendu ces derniers jours.
Merci beaucoup, Fredo.
Adieu, Sico.
Merci, bonne soirée, Fred. À très vite. À très, très vite, Fred. On file en Italie maintenant avec toi, Simone. Voilà, on va faire un petit tour avec toi en Italie. 34e, non, pas du tout 34e. Là, je suis en première ligne. Mon pote, ça n'a rien à voir. Voilà. 32e. Même toi, t'es au courant, visiblement, de ce qui se passe chez toi. 32e journée de Serie A. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Il y a eu un Atalanta-Inter, notamment, ce soir. Il y a quoi au menu demain? Dis-nous tout, là. Il y a Milan-Naples, c'est pas mal.
Demain, il y a un super menu, parce qu'il y a Milan-Naples l'après-midi.
Lazio-Roma, surtout.
Et il y a Lazio-Roma.
Le derby.
Demain soir, que ça devait être le derby des deux demi-finalistes européennes. Par contre, la Lazio, c'est un peu sabordé à Salzbourg, avec ses deuxième mi-temps. C'est très intéressant. Les deux vont être très intéressants. Milan-Naples, c'est un match qui compte beaucoup pour Milan, pour Naples surtout, parce que il y a encore cette lutte pour les titres. Il y a un stade très intéressant pour demain. Demain, Gigi Donnarumma va faire son 100e match en Serie A.
Déjà?
À 19 ans, un mois et deux jours.
Oh la vache.
Et pour vous dire combien il est en avance sur l'histoire de ces championnats, sur les grands champions, Gigi Buffon a fait son 100e en Serie A à 21 ans.
Oh la vache.
Deux ans plus tard. Et demain, il devient les joueurs plus jeunes dès l'histoire de la Serie A, devant Rivera, devant Silvio Piola, avoir fait 100 matchs en Serie A. Donc, on le discute souvent, Donnarumma, trop jeune, trop inexpérimenté, il fait parfois des erreurs, mais on doit se rendre compte que depuis presque 40 ans, même plus, il n'y avait pas une joueur si jeune de ce niveau en Serie A. Donc attention, parce que l'avenir est tout à écrire. Naples en difficulté.
Tu voulais parler de Donnarumma?
Non, c'est significatif ce que dit Simone, parce que l'Italie n'est pas vraiment un pays qui donne sa chance aux jeunes.
Bah, ça commence à venir maintenant, par la force des choses un petit peu.
Par la force des choses, vu le contexte footballistique du pays.
Oui. Pour vous dire, un des plus jeunes gardiens qui a fait 100 matchs en Serie A à 22 ans, c'était Sébastien Frey. Mais à 22 ans. Donc, pour vous dire, c'est, je pense, le quatrième gardien plus jeune à avoir atteint les 100 matchs, mais 22 ans. Là, on part d'un gamin de 19 ans et un mois. Match important pour Milan, match important pour Naples, qui, quand même, n'est pas dans sa meilleure situation, pas dans le meilleur moment. Il y aura Mario Rui qui est suspendu, donc doit changer beaucoup la défense. Isaac passe à gauche, Maggio joue à droite. Mertens, c'est 4 matchs sans marque de but. Donc, face au Milan, pour Naples, ça risque d'être compliqué, surtout parce que la Juve joue à domicile, il a une rage. Et généralement, quand la Juve est énervée, mettre ça sur le terrain et ne rate pas le match. Et après, demain soir, les retours de la Roma à l'Olympico, bien sûr, c'est un derby, donc c'est pas l'Olympico toute pour elle.
Ils sont égalité de points. C'est extraordinaire. Il y a une place qualificative éventuellement pour la Ligue des Champions qui se joue sur ce match, en plus.
Oui.
Enfin, l'enjeu, il est colossal.
Ce soir, il y a trois équipes à 60 points, parce que l'Inter est arrivé à 60.
Il y a aussi l'Inter, c'est vrai. Oui.
Et seulement deux vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, attention, parce que Roma-Lazio, ça devient vraiment décisif. Plus pour la Lazio en ce moment, parce qu'il y a la déception de cette Europa League perdue mal. La Roma, maintenant, dans la tête, c'est un rendez-vous incroyable, historique, face à Liverpool. Il y a des joueurs qui sont un peu en doute. Manolas, Florenzi s'est pas entraîné aujourd'hui. Manolas s'est entraîné, mais était pas au top. Donc, on pense déjà que Di Francesco pourrait aussi faire, mettre les derbies en deuxième plan, c'est pas possible. Mais quand même, dans un coin de la tête, une demi-finale de la Ligue des Champions, tu la prépares pas deux jours avant, mais tu commences avec quelques jours d'avance. Et attention, Perotti est blessé. Donc, manque des joueurs à la Roma et il pourrait avoir un petit turnover quand même.
La Juve va jouer face à la Samp également demain. Ils sont comment là, les Juventini?
Fou de rage. Fou de rage, ce soir, Buffon a une émission, elle a confirmé tous ses propos de l'après-match en disant, j'étais là comme symbole, je devais défendre mes coéquipiers, je devais défendre même les 5000 supporters qui sont venus à voir ce que s'est passé. Donc la Juve reste,
très énervé. C'est pas énervement seulement face à l'arbitre, c'est énervement beaucoup plus en haut, au sommet de la FIFA, face contre Pierluigi Collina, qui est un peu considéré.
C'est incroyable. Là, ils ont vraiment pété un plomb sur.
Il y en a beaucoup
et
nos amis turcs. Bah, le président aussi.
Les présidents de la Juve, les présidents de Naples, les présidents de la Roma. Il y a. Alors, si tu regardes les parcours des Italiens en Europe depuis des années, il y a toujours un peu de malchance avec les arbitres. Et il y a un mouvement très fort en Italie contre Collina. On sait très bien que Collina est parti très mal de l'Italie quand il est devenu sélectionneur UEFA. C'est un hasard. Je dis pas qu'il y a une raison. La dernière coupe de l'Inter, de la Ligue des Champions, c'est l'Inter en 2010. Le 2 juillet 2010, Collina devient sélectionneur des arbitres à l'UEFA. Donc, je dis pas que c'est cause-effet, mais depuis qu'il est là, l'Italie a un peu
nourri une certaine forme de parano.
C'est une culture de la parano.
Et la Juve avait, la Juve avait déjà eu beaucoup de soucis avec Collina quand il était arbitre et aussi quand il était sélectionneur des arbitres en Italie.
Non, mais en plus, la Juve de Moggi pour donner de, enfin, de l'ex-Juve de Modge pour donner des leçons de
sachez que Zlatan a marqué ce soir avec
ils ont payé pour le savoir
ça s'est fait. Merci, stop, on a plus le temps.
Oui oui, il est plus là.
Merci. Merci Simon. Ciao. Merci François Manardo. Merci Ali Benarbia.
Il avait une phrase en portugais, dommage.
T'allais dire quoi? Oh là.
Non, j'allais dire qu'à un certain temps les Italiens tout leur penchait de leur côté et ils gagnaient beaucoup de choses. Et quand ça va pas, ils sont pas contents.
Merci beaucoup, Ali. Allez, à demain. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, Cyprien Betout, bien entendu, les équipes techniques, tout ça. Bisous. Ciao ciao.
C'était l'After Foot sur RMC avec l'école Sikaflex. Sikaflex, 50 ans de réflexe.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.